TEE, le journal.
C'est l'heure de vous informer sur la RTE. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette édition qui commence avec les titres. La jeunesse de la province du Nord Kivu est appelée à intégrer la réserve armée des défenses RAD, une structure d'appui au FARDC. L'appel a été lancé mardi 5 mai 2026 lors d'un atelier et a réuni les responsables de la RAD et ceux du PDDRCS. Et la coordination urbaine de la société civile de Beni déplore la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs quartiers de la ville. Maître Pepe Kabotaso, président, plaide pour une implication urgente des autorités. L'accouchement est un mystère, un moment unique de joie et surtout, quand tout se passe bien, la sage-femme Katungunema Christine exerçait à l'hôpital de Matanda, l'a dit à la radio-télévision État de l'Est à l'occasion de la journée internationale de la sage-femme célébrée le 5 mai de chaque année. Madame, Messieurs, c'est tout pour le titre. Angèle Kawi à ce mois. Les détails, c'est dans quelques instants.
RTE, au zénith de l'actualité.
À l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mers, célébrée le 5 mai de l'année, les chefs des travaux Paul Koukasso Monsignor, expert et enseignant-chercheur au département de santé publique à l'Université catholique du Graben UCG, rappellent que le lavage régulier des mains reste un geste simple mais essentiel pour prévenir une maladie. Il conseille le lavage à l'eau plutôt que les gels. Reportage Christine Aziza.
Dans une interview accordée à la RDE ce mardi 5 mai, le CT Paul Koukasso me souligne que le lavage des mains est un geste simple qui change tout en matière de prévention des maladies. Il déplore cependant un constat préoccupant après les épidémies. La population a tendance à se désintéresser de cette pratique actuellement. Pourtant, insiste-t-il, ce geste protège contre de nombreuses infections.
Quand on se lave les mains, on se protège contre les microbes. Nos mains touchent tout, nos mains passent partout. Quand on se lave les mains, on est en train de se protéger. On évite la plupart des maladies transmissibles. Plus de 80% des maladies transmissibles sont manipulées. Plus nos mains sont propres, plus nous sommes en train de protéger les autres. Les gens se sont désintéressés du lavage des mains après les épidémies. C'est quand même triste parce que ceux qui ont mené des recherches pendant la période des épidémies, l'épidémie de la MVE, maladie à virus Ebola, le fait que tout le monde s'est mobilisé pour le lavage des mains, a diminué la fréquence de plusieurs maladies de mains sales.
Il rappelle également que les moments cruciaux pour se laver les mains, notamment avant de manger, au sortir des lieux d'aisance et après avoir été en contact avec des surfaces potentiellement contaminées. Certes, les gels hydroalcooliques éliminent aussi certains microbes, mais les chercheurs en santé publique insistent que le lavage des mains au savon reste l'une des barrières les plus efficaces contre les maladies des mains sales.
Le moment crucial pour se laver les mains, on se lave les mains avant de toucher la nourriture. Très important. Que ce soit pour cuisiner, préparer un repas, après avoir été aux toilettes. C'est le moment le plus critique pour éviter la propagation de bactéries qui sont d'origine fécale. En rentrant à la maison, vous étiez en ville, vous étiez au travail. Quand vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains avant d'être en contact avec vos enfants ou avec les membres de la famille. Après avoir tousser, éternuer ou bien s'être mouché. C'est bon d'utiliser le papier mouchoir pour se moucher ou de mettre ses mains sur la bouche pour tousser.
Se laver les mains, c'est se protéger et protéger les autres. Un réflexe à garder, épidémie ou pas, note le chercheur.
Merci beaucoup Christine Aziza. Avec vous, Esperanza Sindani, l'accouchement est un mystère et un moment unique de joie, surtout quand tout se passe bien. Kofi Katungunema Christine, sage-femme, exerce à l'hôpital de Matanda. La radio-télévision État de l'Est l'a rencontrée à l'occasion de la journée internationale. La sage-femme célébrée chaque 5 mai de l'année.
Exerçant depuis 5 ans, la sage-femme Katungunema Christine se décrit comme une accoucheuse passionnée. Pour elle, chaque naissance reste un miracle. Cependant, elle tient à rappeler que tout n'est pas rose. en salle d'accouchement. Face aux imprévus, l'équipe médicale joue un rôle crucial. Cette collaboration entre médecins, infirmiers et sages-femmes permet d'intervenir rapidement en cas de problème.
Et l'accouchement, c'est un miracle, c'est un mystère. Alors, la plupart des temps, ça procure de la joie lorsque ça se passe bien, bien sûr. Car la maman et son nouveau-né vont bien. En tout cas, ça donne beaucoup de la joie, du sourire. Ça fait tellement du bien. Contrairement où ça se déroule parfois mal, là, ça donne vraiment de la tristesse. Les cas difficiles, nous travaillons d'abord en équipe. Dans l'habitude, dans la maternité, on ne peut pas être une seule personne, une seule sage-femme. Donc il y a toute une équipe, il y a les médecins, les infirmiers, sages-femmes et des pédiatres. Donc on gère en équipe. Lorsque ça donne des complications, on est en équipe.
Par ailleurs, Madame Katungu insiste que l'accouchement par voie basse ne dépend pas uniquement de la volonté de la patiente ou de la sage-femme. Tout peut se compliquer à la dernière minute alors que l'accompagnement était fait sans faille. Plusieurs facteurs influencent le déroulement. Les conditions de vie de la femme enceinte, les facteurs alimentaires et nutritionnels et d'autres.
Mais plusieurs facteurs impactent dans cela. D'abord les antécédents familiaux, attaques personnelles, les produits que nous consommons, disons que tout ça, ça impacte. Donc un accouchement par voie basse, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se souhaiter ou qu'on se décide. Ça demande beaucoup de facteurs. Donc, ça ne dépend pas de la personne d'une part. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les facteurs maternels. Il y a certaines évaluations qui doivent être faites d'abord avant qu'on décide que cet accouchement peut se faire par voie basse. Et même quand cela est bien déjà établi, il y a des fois où ça peut compliquer car on est déjà même en salle de travail. Il peut y avoir des phénomènes qu'on va constater dans la salle de travail, donc des dystocies ou soit des anomalies qui vont se produire là-bas et finir toujours par un accouchement par césarienne. Donc c'est une grâce. Il faut juste demander cette grâce à Dieu puisque même la morphologie de la personne donc a un effet sur son accouchement.
Enfin, la sage-femme appelle toutes les femmes enceintes à la plus grande vigilance. Respectez toujours les conseils des sages-femmes et suivre scrupuleusement les consultations prénatales. C'est l'essentiel pour minimiser les risques de complications lors de l'accouchement.
Sanctions américaines contre l'ex-président congolais Joseph Kabila, on en parle encore. La RTE Kivu s'est encore penchée sur cette actualité pour essayer de comprendre la valeur juridique, politique et sociale de ces sanctions. Détails avec vous, Laïti Musonga.
Pour le chef des travaux, maître Isaac Mutanga, les sanctions infligées à l'ancien président congolais Joseph Kabila méritent d'être soutenues par tout le peuple congolais. Pour lui, rien ne sert à compatir avec un sénateur en vie qui a pactisé avec les ennemis de la RDC.
Les sanctions à l'endroit du président Kabila par les États-Unis méritent le soutien de tout le peuple congolais. Notre pays ne peut pas déployer autant de moyens financiers, diplomatiques et humains pour faire face à une guerre cyclique d'agression et compatir avec un sénateur à vie qui offre des béquilles aux instigateurs de la déstabilisation de notre pays. Il n'est pas question d'être pour ou contre l'actuel chef de l'État, mais plutôt de ne pas être complaisant à l'endroit de ceux qui trahissent notre pays, quel que soit leur rang.
Pour maître Vianney Kanzira, avocat au barreau du Nord Kivu, les sanctions américaines contre Joseph Kabila ont une grande valeur juridique. Ces béquilles financières sont en train d'être coupées. Toutefois, on ne peut pas beaucoup se réjouir puisque la finalité, c'est de voir le pays être libéré.
Les sanctions là ont une grande valeur juridique. Je peux comprendre ceux qui n'ont pas payé des comptes bancaires, ils peuvent ne pas comprendre. Cela veut dire que Kabila ne peut plus accéder à l'argent. Or, quand vous lisez la loi, on ne peut pas avoir sur soi plus de 10 000 dollars. À d'autres termes, tous ses avoirs sont dans les comptes. Il n'a plus beaucoup de moyens pour continuer à financer. Mais la vraie difficulté qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il est possible de contourner les sanctions. Si et seulement si la personne sanctionnée a déjà créé des sociétés écrans. Bon, on peut se réjouir, mais pas trop. Réorganiser l'armée, réorganiser la conquête des territoires occupés, c'est ce que nous attendons.
De son côté, maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu et ancien maire de Beni, veut que le peuple congolais sente exactement les effets de ces sanctions. Au besoin, le proche de Joseph Kabila doivent également subir le même sort, suggère-t-il.
Il faut quand même qu'on sente les effets de ces sanctions-là. On veut réellement sanctionner Kabila par rapport à quoi? Puisque quand ça prend un aspect qui est général, souvent on ne sait pas bien de comprendre la chose. Il y a déjà plusieurs sanctions, mais dont les effets ne sont pas bien fait sentir. Qu'on sente les effets de ces sanctions-là. Bien plus, il ne faut pas seulement qu'on se limite à Kabila. Non, non. Kabila a déjà avec qui il travaille. Il faut que ces gens-là soient aussi identifiés. Comme il y a déjà une condamnation de la haute cour militaire, même si ce n'était pas coutumance, il faut maintenant que ces sanctions-là puissent être mariées. Les sanctions américaines et les condamnations congolaises puissent être mises ensemble.
On rappelle, le bureau du Trésor américain chargé des sanctions a sanctionné Joseph Kabila pour les soutiens matériels au M23. Cette décision de l'OFAC date du 25 avril 2026.
Merci beaucoup, Laït Moussonga. Les jeunes sont appelés à intégrer la réserve armée des défenses RAD, une structure d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Cet appel a été lancé mardi 5 mai 2026 à Ville de Butembo lors d'un atelier et a réuni les responsables de la RAD et ceux du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la sensibilisation des jeunes activistes membres de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo dans les Grands Nord Kivu. Degisto Mwindo détaille.
Venus des différents quartiers de la ville de Butembo, plusieurs activistes pro-démocratie issus des mouvements citoyens et groupes de pression ont été appelés à intégrer la réserve armée de la défense. Prenant la parole, Kavira Fazili, point focal de la RAD dans les Grands Nord Kivu, a d'abord expliqué le fonctionnement de cette structure d'appui aux forces armées de la RDC avant de lancer un appel à l'engagement patriotique des jeunes.
C'était juste faire l'appel à toute la population que nous devons tous intégrer la réserve armée de la défense pour que nous puissions trouver la paix dans notre pays et surtout dans notre province du Nord Kivu. La RAD est là pour essayer de restaurer la paix dans notre pays et ça vient en appui à nos forces armées de la République. Et nous venons accompagner le FARDC pour essayer de chercher la paix chez nous.
De ce côté, Katimbo Massinderik, chef d'antenne du PDDRCS en ville de Butembo et dans les territoires des Loubérous, a précisé que les volontaires pour la défense de la patrie, VDP communément appelé Wazalendo, doivent d'abord passer par les processus du PDDRCS. Celui-ci implique notamment l'obtention d'une carte de démobilisé, condition essentielle pour être éligible à la réserve armée de la défense.
Aucun membre des groupes armés ne peut pas quitter la brousse, juste et du coup, il intègre la RAD. Aucun membre des groupes armés ou tout un groupe armé ne peut pas quitter la brousse et directement à la RAD. Ils doivent d'abord, de prime abord, c'est un impératif, ils doivent passer d'abord par le PDDRCS. Et après, ils auront maintenant à faire les choix, après l'obtention des cartes pour de mobilisation, de choisir soit la communauté de rester à la maison, soit de faire la RAD.
Il convient de rappeler que la première promotion de la RAD est actuellement en formation à Nyaleke dans les territoires de Béni.
Les éléments du M23 sont accusés d'avoir abattu un éléphant du parc national de Virunga dans la nuit de lundi à mardi 5 mai 2026 à Nyakakoma, une enclave de pêche située dans les Kroumas de Binza, territoire de Rutshuru en Nord Kivu. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l'animal aurait été abattu à tir d'armes par des forces de sécurité sous le label du M23 à sa pénétration dans cette localité qui semblait déjà créer la panique dans les chefs de la population. Reportage Mwenge Kake.
À en croire des sources locales, tout a commencé vers 21h lorsque ce pachyderme est sorti du parc, pénétrant dans la zone habitée de Nyakakoma. La présence de l'animal a créé une vive panique au sein de la population. Peu après son arrivée, des coups de feu ont retenti ciblant l'animal. Criblé de balles, l'éléphant s'est écroulé au sol avant de rendre ce dernier souffle au petit matin de ce mardi, de suite de ses graves blessures, témoigne un habitant de la place sous anonymat. On l'a criblé de balles autour de 21h. Et cette nuit, cet éléphant était encore à vie. Il est mort au petit matin. Ce sont des éléments du M23 qui l'a tué. L'éléphant a pénétré dans les villages, c'est comme s'il a proféré des menaces et là ils ont tiré des balles. La motivation de l'abattage de cet éléphant en divagation n'est pas connue. Aucun dégât humain n'a été enregistré lors des tirs contre ces pachydermes. Jusqu'à l'heure de la rédaction de cette information, en début d'après-midi, aucune réaction officielle de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICSN n'a encore été publiée. La dépouille de l'éléphant gît toujours à l'endroit de son abattage près du stade Tatandez et de Nyakako, comme sous la sécurité des éco-gardes. Depuis Nyamilima, dans le groupement de Binza Mwenge Kake, RTE Butembo.
Dans la ville de Béni, la coordination urbaine de la société civile déplore la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs quartiers de la ville. Pepe Kabota, président de cette structure citoyenne, qui s'est exprimé mardi 5 mai 2026, affirme que cette situation suscite une vive inquiétude au sein de la communauté. Il plaide pour une implication urgente des autorités compétentes afin de trouver une solution palliative à cette situation. Farah Diakato pour le point complet.
Selon Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Beni, plus de 7 cas d'assassinat ont déjà été documentés en ville de Beni depuis le mois de janvier de l'année en cours. Il accuse des présumés bandits, ainsi que certains éléments incontrôlés des forces loyalistes, d'être à l'origine de ces cas d'insécurité urbaine.
La coordination urbaine de la société civile Force Vie de Beni s'en inquiète de l'évolution dégradante de la situation sécuritaire à la ville de Beni, tout en condamnant les cas les plus récents, dont les trois cas de Sayo, de Ngadi, de Mangote, les cas des cités belges, les cas de Biaoutou, où dans tous ces cas, un grand pourcentage revient aux éléments des FARDC incontournables. Il est inacceptable que les éléments de l'ordre commencent à donner la mort à la population qu'ils sont censés protéger.
Consécutivement à cette situation alarmante, Maître Pepe Kavota estime qu'il est urgent pour les autorités judiciaires d'organiser les audiences publiques afin de condamner les auteurs de ces actes barbares.
Il est donc urgent que les autorités judiciaires puissent organiser des audiences publiques afin de soulager la paisible population en condamnant les auteurs de ces actes barbares, tout en demandant à la population de se souder comme un seul homme aux côtés de ses services. Il est urgent que le système de Nyumbakumi soit renforcé.
Il convient de préciser que cette alerte de la société civile intervient alors que la ville de Beni fait face à une insécurité grandissante, caractérisée par des cas de vol, d'assassinat et plusieurs autres formes de violations. Beni, Farah Diakato pour la RTE Kivu.
Toujours dans la ville de Beni, le gouverneur du Nord Kivu, le général Kakule Somo-Evariste, a reçu ce mardi 5 mai 2026 à son cabinet du travail les coordonnateurs humanitaires des Nations Unies, Bruno Le Marquis. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire, les retombées du forum de paix de Beni pour les ADEF et les plaidoyers pour les déplacés malgré la crise mondiale. Les humanitaires promettent de rester mobilisés et insistent sur la relance des infrastructures détruites par la guerre. Suivez.
Nous avons eu un échange très fructueux lors duquel il nous a fait le point sur la situation sécuritaire et la situation humanitaire et aussi les opportunités de développement dans la province du Nord Kivu. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du gouvernement et au niveau des autorités provinciales pour ramener la sécurité et la stabilité dans la province. Il y a toujours cette préoccupation très particulière sur la question des ADF dans les zones autour de Beni, Lubero, etc. Donc c'est vraiment un phénomène assez unique, ces ADF au niveau de la RDC. Pour la communauté humanitaire, par exemple, c'est le seul groupe avec lequel les humanitaires n'ont pas de contact, parce que c'est un groupe qui ne cherche pas le contact. C'est un groupe qui est extrêmement destructeur, c'est un groupe qui fait du mal à la province, qui fait du mal au Congo. Et qui a une manière de travailler différente des autres groupes armés. Et ce qu'on voit maintenant, ce que nous a décrit le gouverneur, c'est que avec tous les coups qui sont portés à ce groupe des ADF, ils sont en train de se déplacer encore plus vers l'ouest. Et maintenant, ils arrivent dans les provinces des Owele ou Bawele, Haute-Welle, voilà. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Haute-Welle. Néanmoins, le gouverneur nous a décrit tous les efforts qui sont en train d'être faits pour stabiliser. Avec la coopération d'autres forces, UPDF et MONUSCO, et notamment dans le cadre de ce qui s'appelle le couloir vert qui est une très grande opportunité pour la province du Nord Kivu et pour le pays tout entier, dans lequel il y a des efforts de sécurisation de certaines zones. Et on voit bien que tout est lié. Il faut le développement pour la sécurité, mais il faut la sécurité pour le développement. Donc, les efforts de sécurité sont très très importants pour amener la stabilité, mais il faut aussi faire tous les efforts pour que les acteurs de développement investissent aussi dans la province malgré le niveau de risque élevé. En ce qui concerne la situation humanitaire, on a aussi discuté de la situation. Donc la situation humanitaire, elle est vraiment liée directement à la situation sécuritaire. S'il n'y avait pas de problème sécuritaire, il y aurait très peu de besoins humanitaires. Mais en attendant, il y a encore beaucoup de populations déplacées dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. C'est l'essentiel des déplacés une grosse partie des déplacés de l'est de la RDC sont dans la province du Nord Kivu. Et donc les acteurs humanitaires sont toujours présents sur le terrain, sont toujours à la tâche, travaillent de manière très étroite avec les autorités provinciales pour apporter de l'assistance à ces personnes, notamment les personnes déplacées. On a briefé le gouverneur et son équipe sur la question des financements humanitaires, qui est un gros problème depuis un an, puisqu'il y a eu au niveau mondial des coupures très très significatives des budgets d'aide humanitaire qui ont particulièrement impacté la RDC, puisque la RDC c'est un pays où il y a beaucoup de besoins humanitaires, donc toujours les contributions des partenaires étaient très élevées.
RTE, étoile de l'information, lumière de la région.
Notre rendez-vous de province de Bitanituri, où à mission d'adieu à Bounia, le représentant adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à charge des affaires humanitaires, Bruno Lemarquis, a salué la bonne collaboration entre les acteurs humanitaires et les autorités provinciales, notamment avec les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kanchama. Détail, c'est avec vous, Christine Aziza.
Bruno Lemarquis a relevé des avancées sécuritaires dans certaines zones de l'Ituri, tout en soulignant que la situation reste préoccupante dans les territoires de Djungu et Mahagi, où environ 900 000 personnes sont encore déplacées. Des retours de population ont été observés à Lihumu et Mambasa, suscitant de l'espoir, mais nécessitent des solutions durables pour stabiliser les communautés. Bruno Lemarquis a insisté sur les rôles essentiels du rétablissement de l'autorité de l'État, armée, police, justice, pour consolider la paix. Par ailleurs, il a alerté sur un fort déficit de financement humanitaire. Le plan de réponse reste largement sous-financé en 2026, ce qui limite l'action des agences humanitaires. Malgré des signes d'amélioration, les besoins restent énormes et nécessitent un engagement accru de la communauté internationale.
Dans la province du Sud Kivu, 3 ans après la catastrophe naturelle survenue à Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Kale au Sud Kivu, les populations continuent de vivre dans des conditions précaires sur le terrain. Les traces de la catastrophe restent toujours visibles et ça cause la perte des vies humaines, précise la société civile, force vive du territoire de Kale. Elle plaide pour un reboisement durable afin de prévenir les pires. Ces reportages de Sifagoré depuis Bukavu.
Selon Prince Chilirimbo, président de cette structure citoyenne, les décisions prises par le gouvernement après la catastrophe, notamment la délocalisation des habitats de ces zones déclarées impropres à l'habitation, n'ont pas été effectivement mises en œuvre. Des actions de reboisement ont bien été entreprises par des organisations locales et des partenaires environnementaux, mais elles demeurent ponctuelles et de faible portée, a-t-il déclaré. Selon lui, l'absence d'un programme structurel et durable de reboisement réduit considérablement l'efficacité de ces efforts, alors que la restauration du couvert végétal est essentielle pour limiter l'érosion et le glissement des terres. On observe encore des terrains instables, des zones érodées ainsi que des infrastructures détruites. Certaines zones restent inhabitables ou à haut risque, tandis que d'autres sont occupées de manière précaire faute d'alternatives viables, déplore Prince Chirimbo. Face à cette situation, lance un appel urgent aux autorités politico-administratives ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour accélérer la relocalisation des sinistrés dans des sites sécurisés. Enfin, il recommande au renforcement des programmes de reboisement et de protection de l'environnement ainsi qu'un accompagnement socio-économique et durable des victimes, notamment en matière de logement, un moyen de subsistance et d'action aux services essentiels comme l'éducation et la santé. Signalons que dans la nuit du 3 au 4 mai 2023, une catastrophe naturelle était survenue dans les villages de Bushushu et Nyamukubi et qui avait coûté la vie de plus de 5000 personnes. Depuis Bukavu, Goret Sifa pour la RTEE.
Nous restons dans la même province où la session préliminaire de l'examen d'État 2025-2026 s'est poursuivie ce mardi 5 mai 2026 sur l'Assemblée du pays. Au Sud Kivu, les candidats des filières techniques se sont mesurés aux épreuves spécifiques à leurs options au deuxième jour. Retour sur les déroulements de ces épreuves ainsi que les âgés qui l'accompagnent avec notre correspondant à Bukavu, Egide Abalawi.
Dans la province éducationnelle Sud Kivu 1, plus de 21 000 filles participent à cette étape, en chiffres mis en avant par l'inspecteur principal provincial de l'éducation Jean-Marie Moïssi.
Nous attendons pour la province 42 199 candidats, parmi lesquels il y a 52% de filles et 48% de garçons.
Il appelle le finaliste à privilégier le travail personnel et à observer une rigueur indispensable pour réussir.
À lire leurs cours et à ne pas tricher, à maîtriser les instructions, surtout à être discipliné, parce que la discipline, c'est la mère même de la science. S'il n'y a pas de discipline, on n'arrive pas à atteindre les objectifs.
L'autorité scolaire met également en garde contre les individus mal intentionnés qui proposent des prétendues fuites d'examen pour tromper les élèves.
De ne pas se confier aux charlatans, surtout à la grande session, parce que, comme j'ai à le dire, l'examen d'État, on a multiplié des stratégies. Deux provinces ne puissent pas avoir les mêmes examens. Ce que l'on voit dans la toile, généralement, n'est pas l'examen de la province concernée.
La suite du programme prévoit les épreuves orales de français et d'anglais du 6 au 9 mai avant le pratique professionnelle attendue du 11 au 18 mai 2026. Eugie Dabalawinda Benze, Bukavu, Radio Télé Étoile de l'Est.
Dans la province du Maniema, la Prodepède, une association qui lutte pour la protection et la défense des droits de l'homme au Maniema, a dévoilé les résultats du contrôle citoyen qu'il a mené pendant plusieurs jours dans les différents chantiers publics en cours des constructions de la ville de Kindu. C'est notamment à la Soane Hydroc. De les travaux sont exécutés par l'OVD, la réhabilitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale ainsi que les travaux de l'hôpital militaire à construction. Maître Rajab Boutundi, chargé des programmes de cette structure, fait remarquer que pour les deux précédents projets, les travaux sont à l'arrêt, alors que pour le troisième, le constat est positif. Il donne son appréciation au micro d'Isaël Baliwi, notre permanent de la province du Maniema.
Cette malveillance financière, parce que si vous vous rendez compte, il y a eu une période qui était prévue pour achever ces travaux, mais la période est déjà périmée. On ne sait pas c'est quoi le motif. Et d'emblée, également, nous avons essayé de frapper du doigt la construction du bâtiment de l'hôpital militaire de garnison. Et c'est avec beaucoup de joie que la population a constaté qu'il y a une vitesse, en tout cas au firmament, de la réalisation de ces travaux. Alors la question que nous demandons, quelle est la magie que l'entreprise Derma est en train de faire pour qu'on réalise ces travaux? Certainement, ce n'est pas un hôpital militaire, c'est un hôpital militaire, mais ce n'est pas seulement consacré aux militaires. Même les civils seront soignés. Donc c'est une chose que nous jetons de fleurs au ministre de Vepem, l'excellence Guy Mouadavi Takabombo, pour son savoir-faire et être. Il a promis, il a réalisé, et les travaux prennent des vives à lire. Et nous jetons de fleurs également au réalisateur, donc à l'entreprise Derma, pour la réalisation de ces travaux. Et nous leur exhortons de vouloir terminer comme prévu, parce que c'était prévu 11 mois pour la réalisation des travaux, mais néanmoins, avec la lire que nous retrouvons, en tout cas, on n'a jamais vu un travail tant de la lire comme ça. Et donc, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais aussi nous sommes là pour présenter les orientations objectives, mais aussi des critiques objectives.
Ainsi s'achève cette édition. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Héritier Goubaïka pour la mise en onde. Merci également à l'équipe rédactionnelle de la Radio-Télévision Étoile de l'Est. Portez-vous bien. Au revoir.